Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans un magazine féminin en ligne, entre beauté, mode, déco et bien-être, pas loin de la page « Fête des jalouses », une rubrique à moitié humoristique propose 10 idées pour pourrir la vie de son ex. Attention, ce n'est pas du harcèlement, mais juste des petites vengeances, précise l'article. Comme dans Game of Thrones, se venger est présenté comme tout ce qui reste au genre humain en général et aux femmes en particulier, pour s'exprimer, réparer les torts, dire leur statut de victime, reprendre le pouvoir. Hélas, les idées du magazine ne sont pas aussi brillantes que la vengeance de Sansa Stark, ni aussi diaboliques que celle de Cersei Lannister. Mais l'idée est la même, la vengeance, violence comme justice. Parmi les suggestions donc, dites astuces, il y a alors commander des tonnes de pizza à sa place, donc de son ex, marquer son numéro de téléphone dans tous les endroits publics de son quartier, pirater son Facebook, poster toutes les photos gênantes que vous avez de lui, avertir Adopi de ses téléchargements frauduleux, demander à vos copines de l'appeler en numéro masqué, essayer de lui voler sa chemise préférée, changer le mot de passe de sa connexion Wi-Fi, le désabonner de sa chaîne de sport et enfin faire venir un groupe de musique folklorique en bas de chez lui. Délation, vol, abus de confiance, harcèlement, nuisance sonore, porn revenge. Je précise que la plupart de ces astuces ne sont pas bien loin d'être des délits passibles de poursuite. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, nous allons justement à la rencontre de celles et ceux qui se sont fait pourrir la vie. Harceler serait un terme plus exact par leurs voisins, par leurs ex de différentes façons, pour des motifs et des raisons qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Il raconte comment ça fait, combien de temps ça dure et comment on s'en remet. Ce sont deux histoires racontées par Stéphanie Thomas qui se déroulent de part et d'autre de la frontière franco-belge. Les faits que relate la première jeune femme ont lieu il y a 5 ans alors qu'elle est étudiante dans une grande école.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. J'ai rencontré mon compagnon pendant mes études et très rapidement on s'est mis ensemble. Pendant 2 ans, on a été ensemble avec des hauts, des bas, des pauses, des remises en question, jusqu'à ce moment où j'ai décidé d'y mettre véritablement un terme. J'avais 20 ans. Je me suis séparée de lui parce que c'était une personne qui m'avait trompée à répétition. Je suis partie faire 1 an d'Erasmus en Allemagne. A priori, c'était digéré, mais je me suis rendu compte que depuis les 6 mois de la rupture, il avait mis en place une stratégie de revanche en publiant sur Internet du contenu me concernant, et c'est-à-dire des photos intimes. J'avais expressément demandé la suppression de ces fichier au moment de notre rupture. Et donc, comment je m'en suis rendu compte? En recevant de plus en plus de messages déplacés sur tous les réseaux sociaux, des garçons qui cherchaient à me contacter et à me rencontrer. Au début, c'était pas très clair pour moi ce qui se passait. J'étais tellement à milieu de penser ce que ça pouvait signifier que je me suis dit, bon, bah, c'est les réseaux sociaux, il y a des fous. Je comprends pas de quoi il me parle, etc. D'autres personnes, en bon samaritain, me prévenaient de ce qui se passait. Mais pour me prévenir, encore fallait-il être au courant des sites qui diffusaient les images en question. Et puis, un jour, je me suis sentie un peu au pied du mur et j'ai fait une recherche internet avec mon nom. Et là, énorme choc. 2 pages entières... de sites complètement illégaux qui diffusaient ces photos. Et un énorme choc de se rendre compte qu'en fait ça durait depuis plusieurs mois et que je m'étais rendu compte de rien et qu'en réalité pendant ces mois où je pensais que tout allait bien, j'avais eu des contacts lointains un peu avec mon ex-compagnon mais de façon cordiale. Et en réalité, tout ça se tramait en parallèle. Le contenu a été publié sur des sites du dark web. Il existe des sites dédiés à ce genre de pratique, de revenge porn, comme on dit, de revenge pornographique. Le but de ces sites est vraiment de créer une communauté de personnes qui viennent se venger de ce qu'ils ont perçu comme une injustice, d'avoir été quittés par leur compagne, ou ce genre de choses. Donc j'aurais pu potentiellement ne jamais m'en rendre compte si c'était pas arrivé jusqu'à mon niveau. Il y avait peu de matière, en réalité, mais c'est toujours les mêmes images qui tournaient, et le propre de l'Internet, c'est l'effet toile d'araignée, où c'est publié sur un site et c'est repris sur d'autres à l'infini. Ce qui a été très dur aussi, c'est que sur les forums d'où sont parties initialement les photos, il y avait une pratique qui consistait à mettre une photo d'une personne normale, habillée, et mettre à côté une photo où la personne est dénudée. Et la bonne idée qu'il a eue, c'est de choisir des photos où j'étais avec des membres de ma famille sur la partie où j'étais évidemment habillée. Mon premier réflexe, ça a été de lui dire « Est-ce que tu t'es fait pirater ton téléphone, ton ordinateur ou je ne sais quoi ?» Et sa réaction m'a fait comprendre que c'était pas du tout un piratage, que ça avait été une démarche active de sa part. Il a dit qu'il était désolé, qu'il se rendait pas compte, qu'il me demandait comment je m'en étais rendu compte, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que j'avais souffert de quelque chose. Et là, il a commencé à prendre conscience, à un petit peu plus cerner les conséquences de ses actes. Je l'ai prévenu tout de suite que c'était extrêmement grave, que il pouvait absolument pas remédier à son erreur tout seul, que là, ça lui avait clairement échappé. Et là, il a été en grande panique. Après ça, je me suis tout de suite tournée vers mes meilleurs amis, qui ont été extrêmement choqués. Ce qui m'a énormément touchée quand j'en ai parlé à mes parents, c'est que j'ai découvert un soutien insoupçonné. Ils m'ont vraiment épaulée, ils ont été eux aussi blessés, parce que c'était quelqu'un qu'ils avaient accueilli chez eux. La décision de porter plainte, elle a vraiment pas été facile, mais elle est apparue vraiment obligatoire parce que c'était un moment où j'étais aussi en recherche de stage, de vouloir commencer à m'insérer dans le monde professionnel et qu'aujourd'hui, il faut avoir un profil numérique qui donne envie, qui montre bien qui on est. Et si, quand on tape votre nom, les premiers résultats qu'on trouve sur un moteur de recherche, c'est des liens vers des sites illicites avec photos, les gens vont pas chercher plus loin. Ils cherchent même pas à comprendre si vous avez été victime de quelque chose. Ou en tout cas, c'est la peur que j'ai eue. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument faire disparaître tout ce contenu. Et en ayant commencé à porter plainte et à prendre une avocate, ce qui m'a semblé logique, c'était de le prévenir de ce qui allait se passer. Qu'on s'était renseigné avec ma famille, que c'était passible de prison, d'amende assez conséquente. La partie la plus difficile de l'histoire, c'est le fait que ses parents le soutiennent. Parce qu'en réalité, sa famille ne comprend pas pourquoi je fais tout ce raffut. Je sais qu'ils ont considéré que j'étais vraiment une source de nuisance d'avoir lancé cette démarche suite à ce que leur fils avait commis comme infraction et comme délit. C'est particulièrement sa mère qui a pu le défendre sur ce sujet. Je pense que leur position, elle est assez révélatrice de ce que sans doute encore beaucoup de personnes pensent, qui est de dire, fallait pas envoyer de photos un peu sexy à ton petit ami, c'est ton problème, il faut assumer les conséquences de ton acte. Il faut pas porter de jupe si tu veux pas te faire violer, il faut pas sortir tard la nuit si tu veux pas te faire harceler dans la rue. C'est vrai que d'avoir le soutien de mon entourage m'a permis de ne pas me culpabiliser ce qui aurait pu être la voie sur laquelle je m'engageais. Le soutien de mon père notamment et de mon compagnon actuel qui m'ont fait comprendre que à aucun moment le fait de partager des choses intimes avec son compagnon ou sa compagne c'est quelque chose de mal et qui fait de nous quelqu'un de complètement déraisonnable et que le véritable problème c'est le fait que la personne se donne tous les droits ensuite alors qu'on s'est séparés. Thank you. je me suis dit, je ne peux pas avoir une vie normale avec tout ce contenu complètement en liberté. Et c'est là où, en me renseignant, j'ai appris qu'il y avait des entreprises qui étaient spécialisées dans le nettoyage. Le terme assez marrant, c'est qu'on appelle ça refaire une virginité, voilà, en ligne. Et donc l'objectif de toute cette procédure judiciaire, c'est d'avoir à la fin une capacité à mettre en œuvre l'expertise d'une entreprise grâce aux dommages et intérêts pour nettoyer et s'assurer que mon profil numérique redevient ce qu'il était avant. Même si en avançant un peu dans toute cette procédure, on m'a fait comprendre qu'en fait ça allait me suivre toute ma vie, qu'on ne pouvait rien effacer à jamais, qu'on pouvait effacer les sites présents actuellement, mais que si quelqu'un ailleurs avait enregistré les fichiers, ça pouvait ressortir à tout moment, et que je devais être vigilante pour le restant de ma vie. Le fait d'avoir recours à une entreprise comme ça, ça coûte extrêmement cher, c'est pas du tout une dépense que je pourrais assumer seule, parce que ça implique tout simplement de pirater des sites. C'est vraiment l'idée d'essayer de rentrer en contact avec les webmasters de ces sites qui diffusent les photos. A priori, ça ne marche pas parce que ce sont des sites évidemment illégaux. Donc, d'aller dans un second temps hacker les sites et faire disparaître le contenu, les faire chanter à leur tour. Ce qui fait que c'est un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au bout d'un an, j'ai donc réussi à enclencher véritablement la procédure du juge avec l'enquête, le fait que les policiers soient allés au logement de mon ancien compagnon pour récupérer son ordinateur, son téléphone, pour analyser. Ils n'ont eu aucune difficulté à tout retrouver. Ils se sont aussi rendus compte qu'ils s'étaient introduits dans mes messageries des milliers de fois, sur des périodes de temps très courtes. Donc ils cherchaient absolument à prendre possession de tout ce à quoi je pouvais avoir accès. Le procès au civil et au pénal a eu lieu il y a un an. Il a été reconnu coupable, condamné à une peine de prison avec sursis et à verser des dommages et intérêts qui comprennent la prestation de l'entreprise à hauteur de 25 000 euros. La peine de prison avec sursis est de 18 mois. Personnellement, ça a été un traumatisme énorme. Physiquement, je me suis bloquée le dos plusieurs fois, j'ai été arrêtée, je n'osais plus aller en cours parce qu'évidemment je devais le revoir. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je ne porterais pas plainte. Tout simplement parce que financièrement, ça représentait trop de dépenses pour moi et que je m'en remets toujours pas aujourd'hui et que je n'ai aucune garantie que les dommages et intérêts me seront versés un jour. Il y a finalement peu de recours pour cela, ou en tout cas des recours peu efficaces. Au final, c'est une victoire d'avoir été reconnue comme victime par une juge d'un tribunal de grande instance et de voir cette peine de prison avec sursis extrêmement sévère. Mais au-delà de ça, il n'a pas été exclu de l'école, il ne m'a pas versé les dommages et intérêts. Et moi, de mon côté, je ne peux pas tourner la page parce que je ne peux pas payer l'entreprise qui pourrait faire le ménage et m'assurer que lors de mes prochaines recherches d'emploi, personne ne tombera sur du contenu intime. J'ai à échéance régulière été revérifier ce qui pouvait traîner. Avec le temps, ça finit par se noyer et grâce à mes demandes régulières auprès des moteurs de recherche, il y a des choses qui ont disparu. Mais je sais que c'est voué à revenir, et de temps en temps, quand sur mon téléphone je vois que hop, j'ai un message d'une personne que je connais pas, un petit peu déplacé, je comprends à quoi ça peut faire allusion.
J'habite dans cette maison depuis un peu plus de 27 ans. Une petite maison ouvrière, mais qui me plaît beaucoup et qui, je crois, a beaucoup de caractère, c'est ce que mes amis me disent. C'est une petite rue très villageoise. Il y a beaucoup de familles avec des enfants qui ont racheté de vieilles maisons qu'elles ont entièrement rénovées. Et nous avons d'assez bonnes relations. Ce sont des voisins conviviaux, chaleureux. Voilà. Il y a 4 ans, il y a un homme de 68 ans qui est venu louer un loft dans un clos de verdure. Et un soir de pleine lune, je suis allée appeler un de mes 3 chats. Et il y en a un qui s'appelle Poum Poum, que tout le monde adore dans le quartier. Il est un peu angora gris clair. Il ne rentrait pas à la maison, ça m'inquiétait un peu. Donc, je vais chercher mon chat Poum Poum. C'est la nuit, puisqu'il est 11h du soir, quelque chose comme ça. Et je vais dans le jardin. C'est la pleine lune. Je porte une espèce de robe de nuit, mais comme il faisait torride, c'était pas un pyjama en pilou, ça c'est clair. J'ai des petites sandales aux pieds et cette espèce de tissu, une robe de nuit, mais d'été. Et je cherche, poum poum, poum poum, où es-tu poum poum, rentre à la maison. Et il y a un gars qui sort d'une propriété avec une vieille porte branlante en bois et qui me dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et je lui dis, je cherche mon chat Poum Poum, vous ne l'auriez pas vu, c'est un beau chat gris. Et il dit, non, je ne sais pas. Et je parle un tout petit peu avec lui, je dis, écoutez, si vous le voyez, je rentre chez moi et puis je retrouve mon chat, voilà. Il se passe 4 ans où j'ai avec lui, mais comme les autres voisins, des conversations dans la rue. Et avec lui, j'ai parfois sur le trottoir, il n'est jamais rentré chez moi, des conversations politiques, parce qu'il s'avère que c'est un défenseur acharné de Trump, le président américain, et que moi, je ne suis pas du tout en faveur de Trump. Et alors, il se fâche même tellement qu'il n'est pas possible de discuter, et que parfois, il pleure. Je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Une discussion politique, c'est ridicule. Oh, mais parce que je suis comme ça, voilà, il faut prendre comme ça. Les 4 ans passent, et puis, il me met une lettre dans ma boîte à lettres, ou plutôt un papier. C'est la première lettre où il dit que il n'osait pas me le dire, mais que depuis 4 ans, il est fou amoureux de moi, depuis cette nuit de pleine lune, et qu'il ne sait pas pourquoi, mais il a très peur de notre amour, mais il a décidé de se déclarer. Donc c'est une lettre amoureuse avec des petits cœurs partout. Et puis il vient sonner chez moi, et il me dit de manière très crue, « Eh bien, je vais te dire la vérité, je bande pour toi comme un fou. » Toi, certainement que tu te masturbes aussi et on pourrait le faire ensemble. À ce moment-là, je lui dis qu'il touche à mon intimité et que je suis choquée par ses propos, que je vais réfléchir. Mais je sais que je vais dire non. Il avait aussi dit qu'il trouvait que je l'ai très souvent très déshabillée dans rue et que lui, il adorait la nudité et qu'il me proposait de venir vivre à lui dans son loft et de vivre tout nu ensemble. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que j'ai une adorable petite maison avec 3 chats. Qu'est-ce que j'irais faire dans son loft qui est une grande chambre, pas bien entretenue, pleine de poussière, d'autant que j'ai appris depuis lors qu'il est alcoolique et à mon avis, il travaille un peu de chapeau. Pendant qu'on se parlait au cours des 4 ans dans la rue, je lui avais dit que j'étais une femme qui vivait seule et que j'avais eu un certain nombre d'amants, mais comme femme célibataire, moderne, qui vit au XXIe siècle. J'ai 71 ans, donc oui, j'ai eu plusieurs amours, on va dire. Et il en a conclu que j'étais une femme libérée. Mais alors, j'ai cru comprendre que pour lui, une femme libérée, ça veut dire une femme qui accepte de coucher avec le premier venu et d'éclairter les jambes dès qu'un type lui dit qu'il la désire. Ce qui n'a jamais, jamais été mon cas. Pour moi, une femme libérée, c'est une femme qui travaille, qui est indépendante, qui se paye elle-même ses vacances et qui, si elle a envie, prend des amants. C'est un goujat, c'est un primate. J'aime beaucoup les singes parce que je pense qu'ils sont très proches de l'être humain, mais c'est un primate. À peine il était venu me faire des propositions érotico-pornographiques, il a trouvé une autre femme. Je me dis, ouf, Je suis sauvée, il va focaliser sur elle, il va pouvoir avoir des contacts sexuels puisque ça lui importait tellement, soulagée. Mais non, pas du tout, c'est alors que ça a commencé de manière le plus virulente. Alors récemment, avant l'été, très précisément le 15 juin, et puis une seconde fois aux alentours du 23 juin, il a glissé dans ma boîte à lettres des lettres, toujours mises sans enveloppe, mais signées et écrites à la main, donc pas du tout anonymes, d'injures, des lettres pornographiques et des lettres de menaces, en me menaçant notamment de nous faire une guerre par avocat interposé. Et lui choisissait, il l'a dit plusieurs fois dans plusieurs lettres différentes, un avocat célèbre qui a défendu Marc Dutroux. J'ai les nerfs détruits et j'en ai pour des mois. J'ai fait placer une alarme par une société professionnelle qui m'a coûté aux environs 3000 euros. J'ai fait installer, vous savez, ces panneaux infrarouges qui réagissent avec de la lumière dans le jardin, si. Donc même mes chats le déclenchent. Et alors j'ai l'orgueil de croire que je suis capable de voir quand les gens sont déséquilibrés. Là, je suis assez vexée parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai rien vu venir. Les voilà, les lettres, oui, voilà. Alors, il hurle par écrit. La première lettre, « Je suis amoureux de toi depuis le premier jour, point d'exclamation, mais j'ai peur, point d'exclamation, Gérard. » Moi, je lui réponds quelque chose de très gentil, parce que je suis une personne très gentille, « Cher Gérard, je t'offre cette biographie romancée de Patrick de Clercq. C'est un psychiatre dont on a monté le témoignage vécu sous forme de pièce de théâtre où il a été opéré au cerveau. Et alors je dis que ce texte m'inspire une jubilation que je ressens quand j'arrive à sublimer une expérience pénible et en faire un moyen d'accéder à la sagesse. Puisse ce témoignage s'incruster intimement sous ta peau et dans tes neurones, c'est tout le bien que je te souhaite. » Et je signe. Donc je suis gentille, hein, et je lui offre même un cadeau. Alors à partir de là, je c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà, il m'écrit des trucs, il dit que je suis toxique, qui me rend le livre qui est un livre de merde, qui met à la poubelle. Oui, oui, sympa, très très sympa, ce qu'il fait avec mes cadeaux. J'étais très bouleversée et je ne trouvais personne pour m'aider. Alors, je suis également bouleversée parce que j'ai les nerfs assez fragiles, ayant dû me battre contre 3 cancers. Donc, je suis assez secouée et je vais directement porter ces lettres et faire une plainte à la police de ma commune. La police m'a donné un numéro de téléphone spécial d'urgence auquel je peux téléphoner et ils sont là dans les 3 à 4 minutes. Mais j'ai très peur de lui ou de ses relations qui lui rendraient service par amitié. Ils ont convoqué mon harceleur au commissariat de police. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que maintenant, quand il me voit, il traverse la rue et il ne vient pas vers moi.
Drove man into the desert night. See no desert here. See no desert here.
C'était La vie pourrie, reportage Stéphanie Thomas réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Mike Thomas et à Mathilde. C'est Mélissa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.
In the East End Rock, you so admire, is a murdering fuckhead. The influence is clear. Influence is clear. You're only a stone's throw.